Ce soir, nous allons étudier 1 Corinthiens chapitre 11. Un petit rappel, vite en arrière, donc ceux qui étaient avec nous pendant tout ce temps, vous savez que le chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, nous avons beaucoup étudié tout ce qui touchait à la liberté chrétienne et l'usage qu'un enfant de Dieu doit en faire. Nous avons vu que ce n'est pas parce que nous avons cette liberté que nous en servons n'importe comment. Il y a des choses dont on peut se priver pour le bien des autres, pour le bien de l'Église, pour que l'œuvre de Dieu avance. Les chapitres 11 jusqu'au chapitre 14 vont traiter d'autres choses, de ce qui convient pour le bon déroulement des cultes publics, pas des cultes en famille, mais des cultes publics. Quand nous nous retrouvons ici, il y a comme des règles, il y a des façons de faire, etc., qui doivent avoir lieu dans une église. Donc on tâchera de faire le lien là aussi avec l'usage de la liberté chrétienne. Nous sommes libres de beaucoup de choses, mais quand on se retrouve dans un culte public, il y a des choses auxquelles on doit se conformer. Et dans tout le chapitre 11, il y a deux sujets principaux qui sont abordés. Du verset 2 au verset 16, on nous parle beaucoup du rôle des hommes et des femmes. Ce n'est pas dans le mariage. Vous allez voir, ce n'est pas dans le mariage. C'est vraiment du rôle des hommes et des femmes en général. Et la deuxième partie, à partir du verset 17 jusqu'à la fin, à 34, je crois, oui, à 34, ça nous parle de la façon de célébrer la communion, la Sainte Cène, le repas du Seigneur. Donc voici les deux thèmes qui sont abordés dans ce chapitre 11. Mais par contre, le chapitre 11 débute avec un verset qui n'a rien à voir comme tel avec ces deux sujets, qui est comme la suite et la fin du chapitre précédent. Il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc c'est une introduction dans le fond que Paul fait. Il introduit son chapitre en montrant que le succès de sa vie chrétienne, le succès de son ministère est dû au fait qu'il lui-même est soumis à Christ, qu'il a imité Christ. Et s'il a imité Christ, il voudrait que nous aussi nous puissions l'imiter parce que Christ est notre modèle. Et nous allons y revenir par la suite parce que s'il a imité Christ, et il l'a imité sous un aspect, l'aspect où Christ ne s'est pas regardé comme égal à son Père. Il y a le texte de Philippiens. Philippiens, on va le lire. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6, qui l'explique très bien. Il dit, mais ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, j'ai imité Christ, imitez-moi. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Je vais m'arrêter là. Christ s'est humilié, il ne s'est pas comparé à son Père, etc. Donc, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Christ n'a pas regardé à son égalité. Christ s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur parce qu'il cherchait non pas son avantage, il cherchait l'avantage des autres. Notre avantage aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires. Il cherchait l'avantage du plus grand nombre. Il a accepté de se dépouiller de tout ce qu'il avait comme gloire, etc. Donc, lui, il a imité Christ. Paul a imité Christ. Soyez donc mes imitateurs, dit-il, pour que vous ayez un plus grand impact. Donc ça, c'est une introduction qu'il fait, qui fait dans le fond suite à tout ce qu'il a dit dans le chapitre précédent. Donc la liberté chrétienne, c'est bon d'en user, mais des fois on peut s'en priver pour le bien du plus grand nombre. Ça revient, et nous allons le voir que même dans ce chapitre, c'est la même chose. Lisons les versets 2 à 3. Je vais y aller comme ça par 2, 3 versets à la fois. Il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Je vous loue. Il les loue pourquoi ? Il les loue parce que chaque fois qu'ils ont un problème au niveau de cette église de Corinthe, ils recourent à lui. Ça veut dire qu'ils reconnaissent son autorité apostolique. Ils recourent à lui pour des questions qui sont douteuses, qui ne sont pas claires dans leur esprit. Ils le consultent chaque fois qu'ils ont des questions brûlantes. Ils les louent pour cela. Ils les louent aussi parce que c'est sûr qu'ils retiennent les instructions qu'il leur a données en matière de doctrine. Et le vrai problème de l'église de Corinthe n'était pas du tout un problème de doctrine, comme c'était le cas, on l'a vu à l'époque quand on a étudié l'Épître aux Romains. Ce n'était pas un problème de doctrine, c'était un problème de pratique, de certaines petites règles dans la vie de tous les jours de l'Église. Et toutes les questions vont dans ce sens. Donc je vous loue de ce que, oui, vous tenez compte de mon autorité apostolique et que vous respectez la doctrine qui vous a été enseignée. Je veux cependant, si je vous loue pour ces choses, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai des remontrances à vous faire ou j'ai des clarifications à vous faire. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, etc. Je vais donc clarifier un principe important qui est un principe que lui n'impose pas, mais qui est un principe divin. Je veux cependant clarifier le principe qui doit vous guider dans la vie de tous les jours en matière de hiérarchie, en matière d'organisation, en matière de subordination dans l'Église. Et il part de ce principe divin qui les dicte. Il est vraiment indispensable au bon déroulement du plan de Dieu pour son Église. Et il dit ceci. Quel est ce principe? Il dit « Christ est le chef de tout homme ». Ici, tout homme, il faut comprendre tout être humain, hommes et femmes. Christ est le chef de tout homme, hommes et femmes. Parce que les deux ont été créés à l'image de Dieu, mais dans un certain ordre. Et ça va jouer par la suite. Il dit aussi que l'homme est le chef de la femme. Il ne dit pas que l'homme est le chef de sa femme. L'homme est le chef de la femme. Donc ce n'est pas seulement applicable au mariage. C'est un principe divin. Il dit aussi que Dieu est le chef de Christ. Ça revient à ce texte que nous venons de lire dans Philippiens chapitre 2. Les deux sont Dieu, mais Christ, Jésus, ne s'est pas comparé comme égal à son Père parce qu'il avait une mission à accomplir. Dieu est chef de Christ. Ça veut dire qu'entre les deux, même si Dieu est le chef de Christ, il y a une harmonie parfaite entre Dieu et Christ. Et cette harmonie n'est pas basée sur une règle de subordination, c'est une harmonie qui est basée sur les règles d'amour. L'amour qui règne entre eux, ce n'est pas par contrainte que Dieu il impose des choses à Christ, non. Ils ont une certaine égalité, mais il y a une certaine hiérarchie de fonctions là-dedans. Leur relation est basée sur l'amour. Il n'y a pas de truc de contrainte. Le Père n'a pas dit à Jésus, « Maintenant, tu n'as pas de choix, je vais sauver le monde, tu vas y aller. » Non, il a obéi. Il a obéi à l'ordre que le Père lui avait donné. Il dit, « C'est le seul plan, je ne vois que toi qui peux aller sauver ce monde, qui peut permettre de rétablir la communion rompue entre moi et mon peuple et ma créature. » Donc, si Christ a obéi à la volonté de son Père, ben, Dieu merci, c'est parce que sinon, on ne sait pas ce que serait notre salut. Amen. Je vais revenir sur principalement le rôle des hommes et des femmes, pour dire que l'autorité de l'homme, donc, a son fondement en Christ. C'est un sujet difficile, parce que je vois des regards, c'est vrai. C'est un sujet toujours difficile, mais on ne peut pas faire autrement que de dire ce que dit la Bible. L'autorité de l'homme a son fondement en Christ. De même, la soumission de la femme trouve son explication dans la même soumission que Christ a eue vis-à-vis de son Père. Il n'y a pas de contrainte. C'est par amour. Dans la relation homme et femme, c'est aussi par amour que cette soumission doit exister. Et d'ailleurs, moi, j'aime l'expliquer quand je parle aux mariés le jour du mariage, j'aime parler beaucoup de cette soumission qui est comme se mettre sous la mission. Il y a une mission que Dieu a donnée à l'homme, comme le chef de la famille. Hein? Donc, il donne cette mission à l'homme et la femme se met sous cette mission pour comme aide. Nous allons y revenir. Comme aide, Dieu l'a créée pour être une aide aux côtés de l'homme. Il y a une mission qu'il doit accomplir, que Dieu juge qu'il ne peut pas l'accomplir seul. Il lui faut une aide qui lui soit semblable. C'est plus davantage dans le mariage. Alors, ce principe de Dieu ne fait pas de l'homme quelqu'un de plus important que la femme. Entendons-nous là-dessus. Il n'est pas plus important que la femme. Il n'a pas plus de valeur que la femme. Ils sont créés semblables. L'un n'a pas plus de valeur que l'autre. Ce principe met en évidence plutôt la différence entre leurs fonctions. Ça va peut-être plus clair, j'espère, au fur et à mesure qu'on avance. Je sais que c'est un sujet délicat, c'est ça. Hein? Nous allons remonter un peu à la création. Je m'en tiens encore à ces deux versets. Nous remontons à la création pour voir ce que Dieu a voulu. Dieu, d'abord, quand il a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, vous le connaissez très bien. Il faut que je lui crée une aide, un secours, une aide qui lui soit son semblable. Je lui crée une aide. Donc, et on sait comment ça s'est passé, la création de la femme. La femme existe par l'homme. Parce que la femme a été tirée de la côte de l'homme. La femme existe par l'homme. Elle a été créée à partir de l'homme. ça personne ne le nie. La femme existe aussi pour l'homme, de par sa vocation d'aide. Tu as été créé pour être une aide. Donc tu existes pour la personne pour laquelle tu as été créé, que tu vas devoir aider. La femme existe pour l'homme et de là sa vocation d'aide. Maintenant, il ne faut pas le voir comme quelque chose de dévalorisant. Moi, je pense que si vous êtes honnête, si nous sommes honnêtes, nous allons le voir comme quelque chose de valorisant. Donc, l'homme à lui-même ne se suffit pas. Il ne peut rien faire sans la femme. Amen. C'est cela. Si Dieu a jugé bon qu'il lui crée une femme qui lui soit son aide, ça veut dire que sans l'aide de la femme, l'homme ne peut rien. Amen. Gloire à Dieu. Un autre élément qui est important là-dedans, c'est que l'homme est celui qui a donné un nom à l'aide que Dieu lui a créée. C'est l'homme qui a donné le nom à Ève. C'est l'homme. Et vous savez que quand tu donnes un nom, naturellement c'est ça, quand tu donnes un nom à quelqu'un, c'est une marque d'autorité sur cette personne. C'est toi qui donnes, les parents qui donnent le nom à son fils parce qu'il a une certaine autorité. C'est moi qui ai choisi le nom à te donner. Tu peux le changer plus tard comme tu veux, mais je t'ai donné ce nom parce que j'ai autorité. Il ne faut pas me demander comment tu m'as donné. C'est moi qui t'ai engendré. C'est moi ton père. C'est moi ton responsable. L'homme a donné un nom à la femme, donc à l'aide que Dieu lui a créée. Et le fait de donner un nom, justement, c'est comme un acte d'autorité sur la femme. Mais la Bible dit en même temps que les deux sont semblables. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une égalité de fonction. Ce n'est pas une égalité. Ils n'ont pas une égalité de fonction. Ils n'ont pas une égalité de vocation. Ils ont une égalité de nature. C'est des êtres humains, des êtres aimés par Dieu, des êtres créés par Dieu. Ils ont une égalité de valeur. Il y a une grande différence là-dedans. Parce que si tu parles, si tu rentres sur le terrain de la nature et de la valeur, là tu vas parler de supériorité et d'infériorité. Il est supérieur à moi parce qu'il a plus de valeur que moi, ou il est inférieur à moi parce qu'il a moins de valeur que moi. Mais quand il a des fonctions différentes, quand il a une vocation différente, il est en position d'autorité ou il est en position de soumission. C'est différent. J'espère que c'est clair. Ça se voit aussi dans la vie quotidienne parce que moi, je peux être plus intelligent que mon chef. Je peux avoir plus de valeur que mon chef, mais je me soumets malgré tout à mon chef parce que lui, il a la vocation d'être mon chef. Je me soumets à lui parce qu'il est en position d'autorité vis-à-vis de moi. Alors que du point de vue de la valeur, nous sommes tous des êtres humains, même du point de vue des connaissances, je peux en avoir plus que lui, mais ça n'empêche pas que je me soumette à l'autorité de mon chef. Donc, le couple, je reviens au couple, même si ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici, le couple, ce n'est pas une union de deux partenaires égaux, vivant côte à côte. Il faut bien, j'ai dit ça, dans une organisation, dans une famille, c'est une nouvelle structure qui va naître quand on se marie, il faut qu'il y ait un chef. Il n'existe dans aucune société humaine où des gens se retrouvent en groupe ou qu'il n'y ait pas de chef. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Sinon, à deux têtes, on ne sait pas. On va aller dans quelle direction. Lui décide ceci, l'autre décide cela. C'est tout un problème. Il faut qu'il y ait un chef et Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Donc, dans le mariage, c'est une union de deux partenaires qui sont complémentaires. Complémentaires, créés l'un pour l'autre. Ça passe mieux comme ça. Amen. Alors, pour que l'homme et la femme s'acquittent convenablement, c'est un autre principe important sur lequel on doit travailler, pour que l'homme et la femme s'acquittent convenablement, chacun de son devoir, chacun de sa mission, ils doivent faire de Christ leur chef. Parce qu'on dit qu'il est le chef de tout homme, homme et femme. Donc le jour où la femme et l'homme, les deux acceptent que Christ est leur chef, que nous sommes sous l'autorité de Christ, et que Christ est le chef, ça va suivre après, je ne veux pas anticiper, il faut qu'on accepte d'abord que nous sommes tous soumis à un même chef, Christ. Il est le chef de notre vie. Le Christ est le chef de tout homme et donc de tout être humain. Sinon, on va assister à ce qu'on entend, à ce qu'on voit souvent, des abus, des égarements, des gens qui disent « Non, non, je suis le chef, moi je suis le chef de la femme, donc je t'écrase, donc tu dois… » Non, ça doit être une soumission comme celle de Christ vis-à-vis de son Père, basée sur un principe d'amour, est basé sur un principe de vocation, etc., qui sont différentes. Amen. Est basé sur un principe de complémentarité. Chacun a son rôle. Le Père a un rôle, le Fils a un rôle, le Saint-Esprit a un rôle à jouer dans tout ce qui se passe ici-bas. Amen. Donc, pour éviter tous ces égarements, tous ces abus, il faut que l'on sache que nous devons tous savoir que nous dépendons de Christ. Christ est le chef de tout homme. Sinon, on va tordre les Écritures, malheureusement, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à tordre les Écritures. Alors, quand on est soumis à Christ, c'est évident, quand on est soumis à Christ, bien aimé, c'est plus facile d'accepter le rôle qu'il nous assigne. C'est bien plus facile quand on est déjà soumis à Christ. On dit que lui, ce qu'il me veut, c'est du bien. Je suis soumis à lui, donc ce qu'il veut, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais accepter mon rôle, je vais accepter ma vocation. C'est, vous savez, j'essaie d'expliciter davantage parce que c'est ça qui va nous aider à avancer, à aller plus loin dans notre analyse de ce texte. Donc, on a vu les versets 2 et 3. On va aller lire versets 4 jusqu'à 6. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, ben, qu'elle se voile. » Paul essaye maintenant de partir de ce principe. Nous avons dit qu'il était divin. Il essaie de l'appliquer à la vie de l'Église maintenant. Dans les deux versets, c'est ce qu'on va voir. Il essaie de l'appliquer. Je rappelle que quand on a commencé à étudier l'Épître aux Corinthiens, nous avons vu que Corinthe, dans l'Église de Corinthe, c'était vraiment hétérogène ou hétéroclite, je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais il y avait beaucoup de mélange là-dedans. Il y avait des anciens esclaves qui ont été convertis, vous aviez des Romains qui étaient là, des gens d'origine romaine, vous avez des gens d'origine grecque, vous avez des Juifs, des gens qui étaient dans cette église, des Juifs croyants qui étaient là-dedans. Donc c'était un mélange. Et chacun venant avec sa culture, chacun vient avec son background, dans quoi j'ai grandi, ce que j'ai vu depuis toujours, chacun vient avec ses choses. Les Juifs, d'après la Bible, d'après les commentaires, les hommes et les femmes, à l'époque, les Juifs portaient un voile en prière. Hommes et femmes portaient un voile. Et on le voit d'ailleurs dans ce qui est imagé, quand on image des photos de l'ancien temps, on voit des hommes avec réellement qui étaient voilés, même certaines photos des serviteurs de Dieu dans la vie. Donc les Juifs, pour eux, les hommes et les femmes priaient voilés. Chez les Romains, par contre, seule la femme se couvrait la tête. Alors vous imaginez quand les deux se retrouvent dans une même église, qui a raison, qui n'a pas raison. C'est là le problème que Paul doit régler dans ce cas-ci. Donc, et même chez les Romains, même si elle devait le faire même en dehors de sa maison. Ce n'est pas juste quand il vient à l'église, même en dehors de sa maison, il devait le faire, porter le voile. Sinon, elle faisait honte à son mari, et quand ça se passe à l'église, elle faisait honte à l'église. Les seules personnes qui étaient dispensées du côté des Romains, c'était les veuves, c'était les femmes répudiées, les prostituées, etc., et auxquelles se sont ajoutées avec le temps les femmes émancipées, donc celles qui voulaient user de leur liberté, dit non, nous ne pouvons pas accepter d'être sous le contrôle des hommes, etc. Non, moi je vais faire ce que je veux, etc. Donc celles-là pouvaient ne pas se voiler, les femmes indépendantes, celles qui prenaient donc la liberté entre les hommes et la femme. Ça ne date pas d'hier, là. Ce n'est pas en 1970 où ça date déjà de l'époque romaine. Hein. Il y avait déjà des contestations à cette époque-là. Chez les Grecs, par contre, les gentils, comme on les appelait, ni l'homme ni la femme ne couvraient la tête. Alors, vous avez ces trois catégories qui se retrouvent là-dedans. Et donc, Corinthe, on sait aussi que c'est une ancienne colonie romaine. Donc, c'était donc principalement marqué par la culture romaine. Et c'est pour ça que Paul recourt à cela. Donc, parce que chacun voulant organiser le culte à sa manière, selon ses habitudes, selon sa culture, Paul s'est basé non pas sur ce qui s'est passé chez les Juifs, mais il s'est basé sur comme cette culture prédominante qui était la culture romaine. Il prend donc acte de la hiérarchie qui est établie par Dieu, que nous venons de le voir dans les versets 2 et 3. Hein. Dieu a établi ce principe et il en tire les conclusions qui s'imposent dans le culte. Il ne parle pas de couple ici, mais c'est vraiment dans le culte. Il répond à la question qui se pose dans le culte. Et au verset 4, il dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Nous venons de lire que dans la culture romaine, c'était le cas. Seule la femme se couvrait la tête. Donc ici, il prend en disant « l'homme ne doit pas se couvrir la tête ». Déjà, un bon commentaire ici dans ma Bible, pour ceux qui ont la même Bible peuvent lire, dit « Paul leur apprend qu'une telle attitude, donc de ne pas se couvrir la tête, est un déshonneur. Il ne déclare pas ici une loi universelle qui vient de Dieu. » Mais il tient compte d'un usage local qui reflétait cependant un principe divin. C'est pour ça qu'on est parti de ce principe divin, mais il tient compte d'un usage local qui reflétait ce principe divin. Dans cette communauté, le fait d'avoir la tête nue était, chez un homme, un signe d'autorité sur les femmes, dans la culture romaine, qui devaient donc garder leur tête couverte. Pour un homme, se couvrir la tête équivalait à un renversement des rôles. C'est clair. Si dans la culture, c'était comme ça, ben, un homme qui se couvre la tête, ben, c'était un renversement des rôles. C'est les femmes qui devaient se couvrir la tête selon ce qui se passait dans la culture locale. Donc, car se couvrir la tête, c'est accepter une autorité étrangère à celle de Christ. Seul Christ est le chef de l'homme. Donc, si tu te couvres la tête, c'est comme si tu acceptes une autre autorité que celle de Christ. Tu déshonores ton chef. Pour ce qui est de la femme, au verset 5, la femme, elle, qui ne se voile pas, c'est comme si elle était rasée, dit-il. C'est comme si elle était rasée. Il était réservé aux femmes adultères, aux mères d'enfants indignes, aux femmes prostituées. Et quand la femme prie ou prophétise, parce que nous sommes dans le culte, quand la femme prie ou prophétise, elle s'adresse à Dieu. Tu vois un peu le raisonnement ici. Elle s'adresse à Dieu et passe par-dessus son mari. Elle n'est pas obligée de passer par son mari pour s'adresser à Dieu. Elle s'adresse directement à Dieu. Et pour ne pas montrer que je déshonore mon mari, que je le minimise, que je n'en tiens pas compte, alors je me couvre la tête. Donc, quand la femme prie ou prophétise, elle s'adresse à Dieu en passant par-dessus son mari. Elle va directement. Tu n'as pas besoin d'autorisation de ton mari pour prier Dieu. Tu t'adresses directement à Dieu. Mais pour montrer qu'elle ne conteste pas l'autorité de l'homme, qu'elle ne conteste pas l'autorité de l'homme qui est son chef, là, elle porte le voile. Voici l'explication. Elle porte le voile. Et il y a encore un commentaire. Dans la culture corinthienne de l'époque, une femme qui avait la tête couverte durant le culte ou son service montrait par ce geste sa soumission à son mari. L'apôtre Paul n'établit pas un principe universel et ne formule pas une loi absolue qui obligerait les femmes à porter un voile dans toutes les églises et dans tous les temps, mais il déclare que les symboles des rôles particuliers que Dieu a attribués à l'homme et à la femme doivent être respectés dans chaque culture. Ça, c'est ce que dit MacArthur. Mais il y a d'autres théologiens, il y a d'autres commentateurs qui disent tout à fait le contraire. Il y a d'autres commentateurs qui disent non. C'est un principe divin et c'est un principe qui est valable, non pas en fonction de la culture locale, c'est un principe qui est valable partout dans le monde et encore des gens qui disent que c'est valable aujourd'hui, que dans le culte, pendant que la femme prie ou qu'elle prophétise, il faut qu'elle soit couverte. Discordance de point de vue. Moi, j'ai opté pour le point de vue ici. Je crois que c'est lié à la culture locale. Il continue en disant ceci. Comme dans le cas de la nourriture offerte aux idoles, le fait de se couvrir ou non la tête n'a aucune signification spirituelle en soi. Cependant, toute attitude qui exprime la rébellion contre l'ordre établi par Dieu est mauvaise. Dans cette culture là-bas, la marque de la soumission de la femme à l'homme, c'était par le voile. Donc, refuser de le porter, c'est comme une rébellion, c'est comme un acte de rébellion. Voici. Et donc, le mot « chef » peut s'appliquer à la femme elle-même. Elle se déshonore en refusant d'accepter les symboles reconnus de la soumission. Ou ça peut s'appliquer à son mari qui est déshonoré par son attitude. Pas très évident. Non, je ne vais pas prendre des questions parce que si je prends des questions, on ne s'en sortira pas. Mais le principe, c'est de dire, quand la femme prie, nous sommes dans un culte, quand la femme prie ou prophétise, elle n'est pas soumise à son mari. Elle n'est pas obligée de passer par son mari. Elle outrepasse son mari pour s'adresser à Dieu directement. Mais pour montrer que je me soumets à mon mari, que je ne le déshonore pas, que je ne le disqualifie pas, que je ne conteste pas son autorité, alors je me voile la tête. Voici l'explication de cette attitude. Et donc ici, MacArthur, j'ai dit c'est un point de vue, il y a d'autres points de vue qui sont encore actuels aujourd'hui qui disent non, c'est biblique que la femme doit se couvrir la tête pendant les lieux de culte, pendant que tu pries. J'ai même vu dernièrement à la télévision, hier ou avant-hier, quelqu'un qui dit « je vais prier ». Il vient de faire une émission, il dit « je vais prier ». Si vous êtes une femme qui vous me suivez, veuillez veuillez couvrir votre tête, sinon ne priez pas, ne priez pas avec moi. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui le disent. Ça n'a pas de place, en tout cas à mon sens, ça n'a pas de place. Parce que ce que j'ai aimé dans ce commentaire, il dit, c'est comme dans le cas de la nourriture offerte aux idoles. Le fait de se couvrir ou non la tête n'a aucune signification spirituelle en soi. Amen. C'est juste pour se conformer aux pratiques de cette époque, aux coutumes de cette époque, pour que personne ne soit sujet de scandale pendant un culte, que ce soit quelqu'un soit une occasion de chute dans cette église, ou que, et nous allons même le voir plus tard quand on parle des anges. Et plus tard, quand on parle des anges, et, vous savez, les anges, ce n'est pas nécessairement les anges d'en haut, les anges, c'est aussi c'est le sens de messager. Les gens riches, j'ai parlé des Romains. Des Romains, c'était les patrons romains qui venaient dans cette église. Et avant qu'ils n'aillent visiter une église, ils envoyaient des anges, des messagers, pour aller voir comment on se comporte dans cette église. Si dans cette église-là, on ne porte pas de voile, il n'ira certainement pas là-bas. Amen. Parce que c'est contraire à ce qu'ils croient. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc les femmes chrétiennes, à cause de Christ, et pour le bien du plus grand nombre, devraient se conformer à ce qui est convenable dans la culture locale, ce qui est accepté localement, afin de gagner les gens à Christ, afin de les amener à adhérer à l'église. C'est ça. On perd un peu de sa liberté. Là où, dans une culture où c'est accepté que le voile, c'est ce qui permet de montrer la soumission à son mari, mais si vous êtes dans cette culture, que vous voulez que les gens adhèrent à l'église, vous allez devoir le faire parce que ça ne vous enlève rien du tout. Ça ne vous enlève rien, mais c'est pour le bien du plus grand nombre. C'est pour qu'il y ait la paix dans l'église, pour que la paix règne dans l'église, que vous le faites. Ça n'a aucune signification spirituelle en elle-même, en soi, mais vous le faites pour qu'il y ait la paix, etc. Même si moi, ça ne me tente pas de dire de ne pas porter le voile parce que j'abîme mes cheveux, je le fais pour le bien du plus grand nombre, comme Jésus l'a fait pour le bien du plus grand nombre et pas pour son mieux, comme Paul et tous les autres, et que nous tous, nous devons faire des choses pour le bien du plus grand nombre. Amen. Donc, il y a certaines choses dont on peut se priver ou on accepte de souffrir certaines situations pour le bien d'autres personnes. On va aller au verset 7 jusqu'à 10. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, il devient plus explicite ici, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Je vais m'arrêter là. Donc, c'est clair, il dit, l'homme ne doit pas couvrir sa tête à cause de son rôle de chef, qu'il doit jouer, qu'il doit sauvegarder selon les coutumes locales. L'homme ne couvre pas la tête. Si tu le couvres, ça veut dire que tu dénies ton rôle. Amen. Je voudrais qu'on lise un premier commentaire, toujours dans Marcature ici. Et les hommes et les femmes ont tous deux été créés à l'image de Dieu, nous l'avons vu. Cependant, c'est l'homme seul qui porte en lui la gloire de Dieu par le rôle qu'il est appelé à jouer. Comme Dieu, il possède un domaine à l'intérieur duquel il exerce sa souveraineté en tant que souverain terrestre de l'ordre créé par Dieu. Dieu a voulu que ce soit l'homme qui soit le chef sur la femme, sur la famille. C'est ça. Donc, il porte à l'intérieur de lui, il exerce sa souveraineté en tant que souverain terrestre de l'ordre créé par Dieu. C'est le premier commentaire que je peux émettre là-dessus. Donc, si l'homme ne joue pas son rôle, il va y avoir des conséquences. Et on l'a vu dans Genèse. On peut lire ça dans Genèse chapitre 3, verset 17, qui dit ceci. Ça parle donc des conséquences de la chute. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Dieu lui avait donné un ordre en tant que chef. Il n'a pas suivi cet ordre, il a écouté les conseils contraires de la femme et il y a eu des conséquences et qui nous poursuivent, nous tous, jusqu'à aujourd'hui. Il dit que la raison donnée pour la malédiction du sol et la mort des hommes, c'est que l'homme a ignoré la voix de Dieu, il a suivi sa femme pour manger ce que Dieu lui avait interdit. La femme a péché parce qu'elle avait agi indépendamment de son mari, dédaignant son autorité, ses conseils et sa protection. L'homme aussi a péché parce qu'il avait abandonné sa responsabilité de chef et suivi les désirs de son épouse. Même si elle est une aide, mais que ton chef à toi, Christ, t'a donné des consignes, Dieu t'a donné des consignes, voici ce que je veux de toi, Ce n'est pas parce que ton aide te dit de faire le contraire que tu vas faire le contraire. Donc les deux ont manqué. Amen. Les deux ont manqué. Donc l'homme a péché parce qu'il avait abandonné sa responsabilité de chef et suivi les désirs de son épouse. Et dans les deux cas, il y a eu inversion des rôles prévus par Dieu. Deuxième commentaire que l'on peut voir là-dedans. Si on va au verset 8, à notre texte, jour de 1 Corinthiens, le verset 8, il dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » La femme a une autorité, certes, mais déléguée par Dieu à travers l'homme. Parce que l'homme provient de Dieu, il n'a pas été tiré de la femme. C'est la femme qui a été tirée de l'homme. L'homme possède, dit-il, une autorité qui lui est dévolue par la volonté de Dieu. Il en va de même pour la femme qui possède une autorité déléguée par Dieu à travers son mari. Et l'homme provient de Dieu, la femme provient de l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Verset 9, il dit que la femme a été créée pour aider l'homme, pour le compléter. C'est la mission que Dieu a donnée à la femme. Donc, comme je disais en début de cette étude, je dis, mais la femme ne doit pas le voir comme étant un rôle inférieur. C'est un rôle pour compléter ce que l'homme ne pouvait pas faire. Une aide qui lui soit semblable, c'est pour compléter l'homme, parce qu'à lui seul, il ne peut pas faire tout. Amen. Il y a une mission qu'il a à faire, mais il ne peut l'accomplir qu'avec l'aide de sa femme. Et au verset 10, quand il passe, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, je viens de l'expliquer tout à l'heure, à cause des messagers, hein, à Rome particulièrement, où il y avait tous ses patrons, avant d'aller dans une église, toutes les personnes d'une certaine notoriété, d'un certain rang social, envoyaient toujours un émissaire, un ange, c'était un messager. Il envoyait toujours un ange pour aller visiter une église. D'autres commentateurs disent, c'est à cause des anges, les vrais, pas les anges déchus, les anges de Dieu, qui viennent aussi voir ce qui se passe dans les cultes et qu'ils font rapport à Dieu. Mais moi, je pense que c'est plus, compte tenu des circonstances, c'est beaucoup plus, j'ai penché plus sur l'hypothèse que c'est des messagers qui viennent voir et s'ils trouvent que ce n'est pas bon, ben écoute, ils vont dire non, là-bas, on ne se voile pas la tête. Donc, la femme qui ne se voile pas la tête, au verset 9, 10, pourquoi la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que si ces messagers viennent et qu'ils font un rapport contraire, c'est des gens en moins qui vont venir donc, au niveau de ces cultes. Comme je vous dis, il y a plusieurs commentaires, mais moi, je penche sur le deuxième ici. Hein. Certains disent que c'est les anges de Dieu qui viennent comme observateurs dans les cultes. D'autres disent que c'est des personnes de notoriété publique qui envoient donc des personnes dans les cultes pour vérifier le bon déroulement de la réunion. Donc, pour le bien de l'Église, il y a des choses que la femme doit faire pour ne pas fermer la porte, en quelque sorte, aux nouveaux qui veulent venir à l'Église. Amen. Elle perd de sa liberté pour le bien du plus grand nombre. Amen. Versets 11 à 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est ce qu'on disait, ils sont complémentaires. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. En tous les cas, il y a complémentarité, c'est simple, on n'a pas besoin de commenter ça. Il y a complémentarité entre l'homme et la femme et ce n'est pas une relation de supériorité-infériorité. Non, c'est une question de vocation différente, mais les deux étant complémentaires, ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité. Et donc, vrai que dans le Seigneur, le statut de chaque croyant, oui, a été transformé. C'est ce que beaucoup de gens semblent dire. Ils disent, mais écoutez, depuis que la grâce est venue, libérée de toutes ces malédictions, de tous les péchés d'anciens temps, Dieu nous a rendus libres, il n'est pas question d'être sous les ordres de tel. Non, il y a deux choses qu'il faut distinguer. La grâce de Dieu et la souveraineté de Dieu. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Amen. Ils sont complètement différentes. Donc, il y a, dans le Seigneur, le fait que le statut de chaque personne a été transformé, mais la grâce de Dieu ne vient pas enlever, toucher à quoi que ce soit en ce qui concerne sa souveraineté. Quand il a décidé que l'homme serait le chef de la femme, ben, ça ne change pas. La grâce ne vient pas changer cela. La grâce ne vient pas changer ces choses. Amen. Dans le cas d'Adam et Ève, ils ont été graciés après leur péché, mais la souveraineté de Dieu était qu'ils devaient être chassés du jardin d'Éden. Ils ne sont plus jamais revenus. Même si Dieu ne les a pas tués à cause de leur péché, il les a quand même graciés, mais ils ne sont jamais revenus dans le jardin d'Éden. Pensez aussi à l'histoire entre Saül et David. Saül a manqué à son devoir de chef. On peut lire ça dans 1 Samuel, chapitre 15. On va lire le verset 10 qui dit ceci. C'est le chapitre qui parle justement du rejet de Saül parce qu'il n'a pas obéi. On lui dit, va, au verset 3, va Maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Mais au verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, comme si Dieu en avait besoin. Didier, Dieu dit, vouez par interdit tout. Tout ce qui est humain, tout ce qui est bête, etc. Ils ont gardé Agag, ils ont gardé les meilleures brebis et les meilleures bêtes. Jusqu'au verset 11, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. » Quand Dieu se repent d'avoir établi Saül pour roi, il regrette de l'avoir établi pour roi parce que l'homme n'a pas obéi. C'est pour ça que la Bible dit dans la suite, il vaut mieux l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que je veux dire par ici, c'est que Saül a perdu la grâce qu'il avait. Mais jusqu'au bout, il est resté roi. Il est resté roi. Alors que David avait été roi, mais il est devenu juste après la mort. Il est devenu après la mort. La grâce de Dieu était sur lui, mais la souveraineté de Dieu qui a dit que c'est fini, tu n'es plus roi, n'était pas encore arrivée au point. Donc, David n'osait pas toucher, au point même quand Saül le poursuivait, n'osait pas toucher parce qu'il est considéré comme étant le oint de Dieu. Pourtant, Dieu s'était déjà repenti. Il dit, il n'y a plus rien de moi sur lui. Mais il demeurait roi. Il demeurait roi. Souveraineté et la grâce. La grâce n'était plus, amen. La souveraineté de Dieu qu'il avait établi roi demeurait encore sur lui. Même chose. La grâce était sur David. Et sa souveraineté a fait en sorte qu'il attende que l'autre meure pour qu'il puisse prendre la place. Deux choses différentes. Donc, on ne peut pas dire la grâce de Dieu est sur moi, donc je me soustrais à tout ce qui est souveraineté de Dieu. Nous avons parlé d'un principe divin au début. Le principe demeure. Le principe demeure. Amen. Donc, les notions de liberté et de soumission en Christ sont à considérer dans la culture locale. C'est vraiment ce que moi j'en tire. Et n'ont de sens que dans la mesure où elles poursuivent le bonheur de l'Église. La liberté dont je dois user, je dois la faire de façon que ça ne nuise pas au progrès, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Que ça soit aille dans le sens du bien du plus grand nombre de gens. Amen. Mais il faut évidemment que ces valeurs n'aillent pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Pensez bien que porter un voile, qu'est-ce que ça peut bien faire à Dieu? Hein? Porter ou ne pas porter, qu'est-ce que ça veut faire à Dieu? C'est pour ça que la valeur spirituelle n'y est pas comme telle. Amen. Donc c'est vraiment lié à un aspect de culture. Le verset 13 à 15, et on va essayer d'avancer, dit « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Amen. Donc je vais arrêter là-dessus. Paul donc veut conclure cet aspect en montrant ce qui convient et que la nature même tend à confirmer. La nature elle-même prouve, et on le sait, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, même si en Afrique on a des cheveux, comment on appelle ça, crépus, etc., frisés, tout ce que vous voulez, mais les femmes ont toujours beaucoup plus de cheveux que les hommes, et c'est naturel. Et même dans les cultures occidentales, de romaines et autres, de cette époque de Corinthe là-bas, dès qu'un jeune homme, même s'il a tendance d'avoir des longs cheveux, à l'âge de 10 ans, on devait lui couper les cheveux. C'est ça, la nature le voulait ainsi, et puis c'est ce qui était accepté dans la société de l'époque, que les hommes aient des cheveux courts. Amen. Les femmes sont, la nature tend à confirmer que les femmes soient voilées quand elles prient Dieu. Nous revenons toujours sur ça, c'est quand elles prient Dieu. Pendant que tu pries Dieu, la tête doit être voilée. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, je ne dirais pas développé une nouvelle théorie, une compréhension de ces passages pour dire, bon, d'ailleurs, Dieu a bien fait les choses. Le fait qu'il leur a donné beaucoup de cheveux, c'est beaucoup de cheveux qui servent de voile pour les femmes. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ça ne veut pas dire qu'à l'époque, puisque les femmes avaient de longs cheveux, qu'elles ne pouvaient pas porter de voile. Et il fallait qu'elles portent de voile pour se conformer à la volonté de Dieu. Mais de nos jours, il y a des gens qui ont pris ça comme nouvelle théorie. Ils disent, d'ailleurs, on n'a pas besoin de porter les voiles parce que nous avons déjà une longue chevelure. C'est la nature qui fait les choses ainsi. Amen. Mais que les hommes aient des cheveux courts, ça paraît normal aussi, je viens de le dire. Dans leurs habitudes, les enfants de 10 ans et plus ont coupé les cheveux pour que, etc. Parce que, en plus, ça, j'ai ri moi-même quand j'ai vu ça, rares sont les femmes chauves. On trouve beaucoup d'hommes chauves, mais je ne sais pas, je ne connais pas des femmes qui perdent, non ? Peut-être des explications médicales, encore, c'est encore lié à cette même nature humaine de l'homme qui est différent de la nature de la femme. Donc, rares sont les femmes chauves. Mais des hommes aux cheveux longs, aujourd'hui, ça signifie autre chose. On regarde toujours de travers. Alors, le verset 16, Si quelqu'un se plaît donc à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc, si quelqu'un conteste, comme c'était leur coutume à l'époque, les gens contestaient tout, n'étaient pas d'accord avec tout ce qui se disait, tout ce qui se faisait, à cause du fait qu'ils se disaient sages, à cause du fait de leur liberté, ils contestaient tout. Mais qu'ils sachent, Paul est ferme ici, qu'ils sachent que nous n'avons pas cette habitude de rébellion. Donc, ce qu'il dit ici, c'est comme si c'était non négociable. C'est comme ça que ça doit s'appliquer. En fait, il est en train de répondre aux questions des gens de l'église de Corinthe. Donc, c'est ça qui doit être fait, comme il dit. Ça doit être fait à Corinthe, ça doit être fait dans les autres églises que nous avons implantées ailleurs. Donc, c'est la situation qu'il faudrait accepter. La deuxième partie de ce passage ici nous parle de la Sainte Cène, des versets 17 à 34, et où Paul donc dénonce l'orgueil donc, de cette église. Il dit que leur attitude les rend pires au lieu qu'ils s'assemblent pour devenir meilleurs. Ils s'assemblaient pour devenir pires. C'est à cause de leur orgueil et de l'attitude qu'ils avaient. Le verset 17, il dit, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. » C'est un autre point qu'il aborde. Le premier point, il a loué certains aspects. Cependant, il a voulu corriger d'autres. Mais ici, il y a des choses qu'il ne loue pas dans ce qu'ils font. Il dit, « C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. » Pourquoi dit-il ça? D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, des divisions parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, il dénonce les divisions. Ce n'est pas seulement ici qu'il les dénonce. Vous vous rappelez, quand nous avons étudié le chapitre 1er, versets 10 à 17, il dénonçait les divisions. Nous sommes de qui? Nous sommes de tels. Il dénonçait les divisions. Au chapitre 3 encore, il dénonce la division. Mais ici, ce qu'il dénonce comme division, c'est des divisions qui sont basées sur la séparation en classes socio-économiques. Des gens riches, des gens plus nantis, des gens moins nantis. Il en parle plus tard au verset 21-22. Il dit que les divisions, au verset 19, il dit que les divisions étaient nécessaires. Il faut qu'il y ait des sectes, il faut qu'il y ait ces divisions parmi vous. Pourquoi? Pour que lorsque une crise apparaît, à ce moment-là, on reconnaisse qui sont les vrais enfants de Dieu, qui sont les vrais leaders, qui sont ceux qui sont approuvés. Approuvés par leur intégrité, par leur façon de faire, par leur authenticité, par leur pureté de cœur. Il faut qu'il y ait ces divisions, qu'il y ait des gens qui puissent se démarquer, qu'on sache qui sont les véritables enfants de Dieu, ceux qui sont purs, ceux qui sont vrais, ceux qui sont authentiques. C'est des divisions ici qui sont basées sur les classes sociales. Lui, il est riche, lui, il est pauvre, classe socio-économique, etc. Alors, au verset 20, il dit, « Donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Je vais les lire jusqu'au bout, et puis je vais revenir avec le commentaire. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je pour ça? Non, en cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. » Donc, au verset 18, il dénonce simplement ces divisions qu'il avait déjà dénoncé auparavant, des divisions qui étaient nécessaires pour qu'on démarque qui sont les vrais leaders, qui sont les gens purs, les gens vrais. Et au verset 20, il dit « Contrairement à l'esprit d'amour », qui veut dire « Contrairement à l'esprit d'amour qui régnait lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vous vous réunissez, pas par amour les uns vis-à-vis des autres, vous vous réunissez pour, soit pour faire des concurrences, l'un mange plus, l'autre n'a rien, tu manges et tu en laisses peut-être pendant que l'autre en manque. Ce n'est pas le même esprit qui règne comme à l'époque du repas du Seigneur. Donc, vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, parce que le repas du Seigneur, quand il a eu lieu, ça s'est fait dans l'amour. Vous, chez vous, l'amour, on ne le voit pas du tout. Amen. Et au verset 21-22, il dit « Les riches apportaient pour eux-mêmes donc, et mangeaient tout, alors qu'il y avait donc parmi eux des pauvres qui n'avaient rien ou pas assez à manger. » C'est un égoïsme basé sur des discriminations sociales au lieu que l'amour partage, l'amour sacrifice règne entre eux, à l'exemple de ce que Jésus a donné comme exemple. Évidemment, Paul est choqué par cela. C'est pour ça que vous voyez au verset 22, il dit « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ?» Ou alors, est-ce que vous méprisez l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Il est choqué. Il dit, que vous dirais-je? Est-ce que je peux vraiment vous louer pour cela? Il dit, en cela, je ne vous loue point. Il est vraiment choqué par une telle attitude et il ne les loue pas. Il dit qu'il valait mieux que vous restiez chez vous et que vous ne puissiez pas venir vous assembler parce qu'il n'y a rien de bon qui sort de telle réunion. L'un sort, il a bu, il a mangé à sa faim. L'autre, il part tout triste. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas eu de communion fraternelle dans le fond. Alors, à partir du verset 23, quand il dit « Ce que j'ai reçu du Seigneur », c'est un passage qu'on connaît, qu'on lit souvent lors de la Sainte Cène. Il dit « Ce que j'ai reçu du Seigneur », c'est que Paul dit simplement que même s'il n'était pas présent lors du dernier repas où Jésus était, il affirme encore une fois qu'il a reçu cela par la révélation de Jésus-Christ lui-même. Il ne l'a pas reçu des apôtres. Et donc, le repas est symbolique. Le repas qu'ils prennent, il est symbolique. Et qu'il faut le répéter régulièrement. Donc, vous ferez ceci en mémoire de moi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. On prend les éléments, le pain qui est le symbole de la nourriture spirituelle, la coupe qui est le symbole, qui symbolise la nouvelle alliance telle que Jérémie l'avait évoqué. Et je termine en ajoutant un point ici pour dire qu'on dit que c'est des symboles parce que nous, ce que nous prenons chaque premier dimanche du mois, c'est du pain sans levain et c'est des fruits de la vigne. Ce n'est pas le corps de Christ que nous mangeons, ce n'est pas le sang que nous buvons. J'ai déjà été, moi, à des endroits où on dit que c'est le corps du Christ qu'on mange, un peu comme dans l'Église catholique. L'Église catholique, elle a une autre doctrine, qu'on appelle la doctrine de la transsubstantiation. Ça veut dire qu'il y a transformation réellement et ça devient corps et sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas ici, c'est important. Important qu'on se le dise. Donc, il n'y a pas de transsubstantiation. C'est vraiment propre à l'Église catholique, à certaines églises. Et donc, il faut qu'on continue à faire ce repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et s'il doit revenir, ça veut dire que quand nous le prenons, nous avons chaque fois un regard tourné vers l'avenir. Je dis qu'il y a trois regards qu'on tourne. On tourne le regard vers le passé, voir d'où il nous a sortis. Mais il y a aussi un regard vers l'avenir. Nous continuons à attendre son retour. Donc, ça doit nous le rappeler constamment. Amen. L'aspect d'indignité. À partir du verset 27, il dit « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. » Ce que Paul veut souligner ici, ce n'est pas une indignité à cause du péché. Pour dire « Je vais me priver de prendre part à la Sainte Cène à cause d'un péché que j'ai commis. » Si tu sais que tu as commis un péché, tu peux prier, tu demandes pardon et le Seigneur est juste et bon pour te pardonner. L'indignité dont il parle ici, c'est avec une attitude d'arrogance face à l'Église. On le dit. Il y a des gens qui en amenaient beaucoup pour eux, alors que d'autres n'avaient rien, il n'y avait vraiment pas d'amour. Donc c'est une attitude d'arrogance. C'est pour ça qu'il dit, il faut s'éprouver soi-même, se juger soi-même, s'examiner par rapport à tel esprit sectaire. Et il conclut donc au verset 29 en disant qu'il faut discerner le corps de Christ. Discerner le corps de Christ, c'est discerner le corps physique de Jésus-Christ, se rappeler de toutes les souffrances qu'il a endurées. Mais le corps de Christ, il faut aussi le discerner comme étant l'Église, nous sommes le corps de Christ. C'est les deux aspects. Quand nous assemblons comme Église, comme corps de Christ. Donc, il faut discerner ces choses quand nous prenons part à la Sainte Cène. Souvenir à la fois du corps qui a souffert la mort de Jésus-Christ et se souvenir aussi que nous sommes une famille, la famille de Dieu. Et donc, agir tout à fait contraire à cela, c'est une attitude de manque de respect qui peut entraîner des maladies. Ceci ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues au fait que que ce soit clair. Et quand nous sommes châtiés, dit-il au verset 32, c'est parce que nous manquons de respect pour le corps de Christ. Et Dieu s'y dit qu'il nous châtie, dit que c'est par amour qu'il nous châtie. Pour que nous ne soyons pas jugés avec un châtiment encore plus grave qui est donc lié à la destruction de l'Église. Amen. Donc il nous châtie par amour pour que nous puissions être épargnés d'un châtiment plus grave qui est lié donc à la destruction de l'Église. Et on termine avec les deux derniers versets 33 et 34. Il conclut donc avec des recommandations. Quand vous vous réunissez, faites-le comme un corps, comme une famille. Faites-le comme une famille. Ne venez pas chacun avec sa part et puis on regarde à la chaise de l'autre et dit « Oh, pauvre lui !» Non, 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 c'est vraiment pas ça. Et qu'il y ait un partage, qu'il y ait une véritable communion. Faites-le comme une famille. Et il va plus loin, il dit « Si vraiment vous voulez manger tellement là, vous avez tellement faim, mangez d'abord chez vous et puis venez par la suite prendre part au repas de communion fraternelle. Et ne vous réunissez pas pour attirer le châtiment sur vous. » Voici donc les deux aspects qui sont abordés dans ce chapitre 11, comme nous l'avons dit. La première partie, c'est la relation de l'homme et de la femme. On a essayé de clarifier ça. Et la deuxième partie, c'est la manière dont doit se dérouler la Sainte Cène dans une église. Alors que le Seigneur nous bénisse.